Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mort plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics du flingue de glace.
Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Moi seul et unique.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Audio, votre poste analogique est réglé sur le 895. Il est exactement midi 2 et vous écoutez l'émission du numéro 0.
Zéro.
Bah, si par hasard vous ne savez pas ce que c'est que le numéro 0, écoutez cette émission, vous en aurez une idée à peu près exacte, puisque aujourd'hui nous allons parler en long et en large, en travers, plein d'événements à venir, dont participe en l'occurrence le numéro 0. Voilà, et ça va être un long agenda quoi, d'une heure, assez détaillé sur plusieurs événements. Le premier sur une tournée qui va avoir lieu dans notre région de camarades en lutte à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, qui ont la malchance d'être frappés par un projet mégalomaniaque d'aéroport. Et donc on va parler de la situation et de la lutte, voilà.
En écoutant des extraits sonores aussi.
Et puis le deuxième truc, c'est la soirée journée de soutien. On dit pas la foire.
Ça s'appelle quartier libre.
Oui, voilà, quartier libre. En soutien à trois organisations révolutionnaires et absolument subversives, c'est-à-dire Radio Dio, le collectif sans papier et comment on l'appelle ?
Le projet d'un local autogéré, communément appelé provisoirement le CSA,
ouais.
Qui n'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ah bon, mais je suis déçu. Donc voilà, donc ces deux événements. Et puis après, comme on aura bien parlé d'un agenda, on fera un petit agenda à la fin quand même. Voilà. Et alors, on enchaîne tout de suite sur Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau lieu de pèlerinage à la mode ?
Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire ces prochains temps, allez vous installer à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une ZAD, une zone à détruire, donc tout le monde y est invité. Non, sérieusement, il y a le projet d'aéroport un projet un peu mégalomaniaque. D'aéroports, d'autoroutes et de lignes TGV qui se situent à 20-25 km au nord de Nantes, je crois. Et ça fait un bon moment qu'ils ont prévu ça. Et les gens, localement, s'organisent pour lutter contre ce gros projet qui va aussi défigurer toute la faune locale, quoi. Ça va changer tout. Donc voilà. Et donc, y a des gens qui luttent là-bas, qui s'organisent. Et qui luttent. Et suite à dans ce cadre-là, il y aura une soirée qui sera organisée le 20 décembre, à la fac, à l'université Jean Monnet, dans un petit peu en collaboration avec l'université solidaire et d'autres gens et des gens se proposait d'organiser cette soirée-là. Donc, dans ce cadre-là, on va parler aujourd'hui de Notre-Dame-des-Landes. Donc la soirée, ça sera, bon, je l'annonce tout de suite, comme ça sera fait, c'est à 18h à l'amphi E01 à l'université Jean Monnet, au site Tréfilerie. Donc comment ça va se passer? Il y aura une intervention, projection, puis discussion, débat à 18h, à partir de 18h à la fac. Et ensuite, ça se terminera par une auberge espagnole à la dérive. Donc le local de la dérive.
31 rue Basse Dérive.
Voilà. Et pour continuer un petit peu de discuter, élaborer, comploter autour de quelques bières et un peu de bouffe. Donc n'hésitez pas. Donc auberge espagnole à la dérive après. Voilà.
Donc auberge espagnole, faut que chacun amène un petit truc à manger.
Ouais, de préférence sans.
Parce que sinon
sans viande.
Ouais.
Merci.
Parce que sinon vous ne mangerez pas. Si vous ne ramenez rien.
Juste pour préciser que les gens qui interviennent ce soir-là vivent à Notre-Dame-des-Landes, donc participent à la lutte contre l'aéroport.
À leur manière.
Oui. Alors, pour certaines, c'est des gens qui habitent depuis peu, en fait, finalement. On y reviendra tout à l'heure, un peu, pour revenir un peu sur l'historique de cette lutte, mais c'est des gens qui ont choisi d'occuper illégalement des terrains et des maisons sur la zone. Ça s'appelle la ZAD, c'est la zone à détruire, ou en fait, c'est plutôt la zone d'aménagement différé.
Voilà.
C'est un terme, un statut administratif.
Ouais, mais urbaniste. Quoi.
Ouais, un truc
mais
urbaniste.
Les gens en lutte, ils appellent ça la zone à défendre.
Ah oui, pardon. Ouais.
Mais défendre, détruire, c'est pareil.
Et alors, on va écouter des extraits sonores.
Voilà, alors les extraits sonores qu'on a choisis viennent d'une émission des camarades de Radio Zinzine, qui est une radio un peu comme Radio Dio, mais qui est dans le sud de la France. Et les gens de Radio Zinzine sont partis, sont allés interviewer des gens de Nantes à Nantes, enfin dans la ZAD et à Notre-Dame-des-Landes. Et donc on a recueilli 2-3, on a fait un petit montage, découpage, et on a recueilli 2-3 témoignages. Donc le premier témoignage qu'on va passer, ça sera celui de ça va retracer un petit peu l'historique de cette lutte-là et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Comment ça a commencé?
C'est Paul qu'on va écouter.
Et oui. Jackie.
Et Rodolphe.
En précisant que la lutte, elle n'a pas commencé l'année dernière pendant le plan climatique, mais qu'il y a bien longtemps, que ça fait plusieurs décennies, au moins depuis les années 40.
Le projet, il date de 40 ans, d'il y a 40 ans. Et les gens ont commencé à se bouger dessus il y a 40 ans. Donc, nous, on n'a pas 40 ans, donc on ne peut pas.
On peut pas savoir. Donc on a demandé à Paul, enfin non, Radio Zinzine a été demandé à Paul, et c'est le moment de passer l'extrait sonore, non?
C'est ça.
Alors on y va.
Nous commençons avec Paul qui revient sur l'histoire de ce projet.
Oui, alors le projet vient depuis 1964-66, qu'il en était question de créer un nouvel aéroport pour le Grand Ouest, pour faire un truc international. Et puis bon, dès 66, ils se sont mis à acheter des terrains déjà dans une zone qui était uniquement rurale, qui était pratiquement pas beaucoup urbanisé, et ils se sont mis à acheter pendant 4 ou 5 ans tous les propriétaires qui voulaient vendre. Le conseil général achetait les terrains, ils en ont acheté 700-800 hectares dans l'espace de quelques années. En général, les paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres, ils étaient locataires, alors le propriétaire vendait sans tenir compte de leurs fermiers, et quelques-uns partaient en retraite quand même, qui étaient propriétaires, et bien se sont débarrassés de leurs fermes parce que conseil général leur a proposé de l'argent. Et puis là, ils en ont acheté dans quelques années, si tu veux, 700-800 hectares quand même, sur les 2000 qu'il leur faut maintenant. Alors, ils en ont encore qui ne sont pas achetés. Et ça a été une première période. Le plan, ils ont fait des études, ils ont fait des recherches un peu, ils ont fait des sur ce territoire. Pour... c'est arrivé que quelques-uns... Il y a eu des résistances à ce moment-là déjà, dès au départ. Les paysans n'acceptaient pas de perdre leurs terres, ceux qui étaient surtout fermiers. Et les habitants aussi se mobilisaient. Il y a eu un certain nombre de fermes qui ont déjà été occupées dès 1970, si tu veux, par des jeunes qui se sont installés sur, contre l'avis du Conseil général qui était propriétaire des terres. Et il y en a eu deux ou trois qui ont été installés dans des grandes fermes d'ailleurs, assez grandes, et puis qui ont continué à travailler. Certains sont encore maintenant sur le terrain et sont devenus, si tu veux, locataires du Conseil général précaire, quoi. Ça veut dire qu'ils sont, en tant que paysans, tu as un an de délai pour quitter le lieu le jour qu'ils veulent t'évincer. Et voilà. Et alors, depuis, ben, ils ont acheté des maisons, beaucoup, ils ont acheté des terres. Et ces maisons et ces terres n'ont pas été entretenues d'autres que par les habitants. Donc, il y a un certain nombre d'anciens, il y a un certain nombre de gens qui ne voulaient pas rester dans la région et qui n'ont pas trop entretenu leurs maisons. Comme le Conseil général n'a jamais voulu aider d'un centime de la réparation des maisons, eh bien, certaines sont tombées en ruine 10 ans après, 15 ans après, qui n'étaient même plus habitables. Et le Conseil général, à mesure que les gens partaient parce que la maison était en ruine, eh bien, il la démolissait, quoi. Le bulle arrivait, il emmenait la maison dans trois camions et on n'en parlait plus. Après, c'était un friche qui se développait à la place de la maison. Et ça, ça a été jusqu'en 90, même après, parce qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites il y a encore 5 ou 6 ans, quoi. Des maisons qui arrivaient comme ça à terme, que les gens étaient plus dedans, mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas, si vous voulez, exproprié ni chassé de personnes de la région, quoi. Pour l'instant, c'est pas ça n'a pas été. Alors ça, c'est il y a eu des années qu'on n'en parlait plus trop d'aéroport.
Le Conseil général à cette époque-là, il était de quel bord?
Le Conseil général était suite à un Conseil général de notables, hein, comme maintenant. Hein. C'était un peu plus de droite et puis un peu moins de gauche. Maintenant, c'est un peu plus de gauche et puis un peu moins de droite. C'est la seule différence. Alors, ça n'a pas changé. Le projet a continué. Et puis, petit à petit, eh bien, on n'en parlait plus jusqu'en 90 ou 92. On en parlait peu. Il avait acheté des terrains, mais il les gardait en réserve. Et puis bon, il n'y avait pas d'ennui. Il faisait des bails précaires aux paysans ou à ceux qui habitaient dans les maisons, s'ils voulaient, sans faire de réparation, rien. Et puis c'est en 92 ou 95 que certains, je ne me rappelle plus quel ministre, quel gouvernement, a remis sur le tapis le projet de l'aéroport. Et de 95 à 2000, on en parlait, mais assez vaguement. Mais à partir de 2000, c'est devenu un projet, pas uniquement Conseil général, c'est devenu en même temps un projet gouvernemental, quoi. Donc elle, c'est le gouvernement qui a pris le relais après 2000, quoi, sur enfin 2000-2004, quoi, qui a pris le projet pour le réaliser, quoi.
Et une question naïve, quel serait l'intérêt pour Nantes d'avoir un nouvel aéroport?
Ben, l'intérêt, c'est moi, il me semble, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais il me semble que le gros intérêt, c'est que bon, Jean-Marc Ayrault, le Conseil général, qui sont des gens de gauche aujourd'hui, veulent laisser quand même, si vous voulez, une réalisation de grandeur nationale et tout, et puis ils veulent faire cet aéroport pour qu'il concurrence ou pas concurrence, mais arrive à faire une grande boutique, quoi, si vous voulez, au niveau de l'Ouest, qui concurrence, pas concurrence, mais qui fait un peu qui fait le même que les trucs nationaux de Orly ou de machin. C'est un peu leur projet, c'est de faire des grandes choses. Et deuxièmement, je crois qu'ils veulent aussi évincer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pas uniquement, ils se servent de ça, mais pas uniquement parce que c'est dangereux pour la ville de Nantes, mais c'est surtout pour l'impact foncier que ça fait. Rezé, Bouguenais et Nantes même sont construits, si tu veux, tout près de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est interdit de construire tout près de l'aéroport. d'hectares et il espère que dans quelques années, il va y avoir plusieurs milliers d'hectares qui vont passer constructibles, qui sont aujourd'hui gelés. Et l'avantage de l'administration, je crois, c'est des promoteurs et puis des élus, c'est de faire une zone urbanisée au sud de Nantes, à la place de l'aéroport ou une partie de l'aéroport toujours tout de suite, de faire des lotissements et le terrain prendrait, si tu veux, 100 fois, 200 fois la valeur qu'il a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas l'utiliser. Et ils ont acheté du terrain à Notre-Dame-des-Landes qui valait le prix agricole, qui valait, si vous voulez, le prix d'un hectare à Notre-Dame-des-Landes. Peut-être ils l'ont acheté le prix de 1 mètre carré, peut-être, à Rezé maintenant. Ça veut dire que le pognon, ils vont se faire du chou gras là-dedans comme ils vont vouloir, quoi. Et il y a aussi bien la mairie de Nantes, la mairie de Rezé, et tout ça, qui sont complices avec les promoteurs pour pouvoir rendre quelques milliers d'hectares là à l'urbanisation qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que l'aéroport est là. Et je crois que c'est certainement un enjeu important économique pour eux de pognon, quoi. Et ça, ça compte, c'est prioritaire avec... voilà, moi, là-dessus, je... Pour beaucoup de cette spéculation, il y a peu de gens qui abordent ce problème de ce côté-là, mais je crois que c'est une logique. C'est comme on voit toutes les communes, Couëron ou n'importe Saint-Herblain, eh bien, leur cimetière qui était au centre-ville, eh bien, ils l'ont déplacé en campagne où ils ont acheté des terrains qui valaient rien, et puis le cimetière, ils le vendent pour faire des lotissements à des prix 100 fois, 1000 fois supérieurs, quoi. Et ça, toutes les villes, les terrains de sport, c'est pareil. Ils les font en dehors des villes maintenant pour libérer les terrains qui sont au centre-ville pour faire des lotissements auxquels le terrain, il y a les équipements publics et tout, les promoteurs, là, ils sont de... Et dans toutes les communes, c'est un peu ça maintenant. Avec l'aéroport, c'est le même principe. C'est la spéculation qui, surtout, est très forte pour pousser les projets à s'en aller en campagne plutôt que pour utiliser ces terrains à la spéculation, quoi.
Du coup, là, on arrive aux années 2000. Quand l'aéroport devient donc projet gouvernemental, et là, comment ça se développe en termes d'opposition, Rodolphe?
En termes d'opposition, il y a plusieurs tactiques. Il y a les gens qui sont la vitrine légale, donc les associations de riverains, les associations environnementales du type la LPO, Greenpeace, qui sont partie prenante, les politiques, les organisations politiques comme les Verts, quoi, qui sont présents sur le terrain et qui sont constitués en coordination, donc la coordination pour lutter contre l'aéroport. Et historiquement, il y avait avant les paysans qui s'étaient constitués en association qui s'appelle l'ADK. Les citoyens locaux aussi se sont formés avec une association qui s'appelle la CIPA. Donc tout ça, ça forme quand même quelques milliers de personnes au niveau du nombre des adhérents, quoi. Et qui tente de créer un rapport de force, mais d'un point de vue politique avec les élus, quoi, d'un point de vue juridique aussi, en faisant des recours juridiques. Et sur le terrain, le problème, c'est qu'on se retrouve parfois peu nombreux, et parce qu'il y a aussi cette peur du gendarme qui est quand même omniprésente. On a tout fait pour mettre dans la tête des gens cette peur, quoi. Et alors c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont décidé d'agir autrement, qui s'organisent autrement, quoi. Et soit par petits groupes affinitaires ou soit par des rassemblements un peu plus grands, pour entamer des actions un peu plus directes, des fois frontales avec la police, puisque aujourd'hui, il y a des sondages géotechniques qui sont entrepris depuis le mois de janvier 2009 et qui permettront de savoir le contenu de la terre s'il est possible de réaliser une plateforme aéroportuaire et puis un barreau routier, puisqu'il y a bien aussi l'idée de faire un barreau routier qui va rejoindre les axes Nantes-Rennes et Nantes-Saint-Nazaire. Donc c'est des kilomètres de route et de bétonnage qui sont en vue. Et là, en ce moment, à l'heure où on parle, il y a des forages qui sont en train de se faire dans les champs. Et à chaque fois que la foreuse arrive pour prélever, c'est des centaines de gendarmes qui, en armes, suréquipés, avec hélicoptères, avec contrôle d'identité des habitants, et qui sont répandus partout dans les champs, quoi.
Et ça a commencé dès les premiers forages du mois de janvier 2009.
Le 14 janvier 2009, le premier forage qui devait avoir lieu sur le barreau routier a en fait été fait sur la future piste sud de l'aéroport. Et donc ça a interloqué quand même pas mal d'opposants, de dire voilà, vous avez dit que vous veniez sur le barreau routier et là vous êtes en train de faire les pistes. Donc ça a mis en colère un peu les gens. Une 50-60 opposants sont venus dans le champ. Et là, ils avaient déjà prélevé la terre, mis les carottages dans des sacs plastiques et enfermés dans un camion. Et là, on a demandé à ce qu'ils restituent les analyses et qu'ils rendent la terre à la terre, quoi. Et là, après moult négociations, un gendarme nous a dit qu'un négociateur viendrait puisqu'il n'était pas habilité pour ça. Et en guise de négociateur, on a eu un cordon de gendarmerie mobile qui est arrivé avec les matraques. Et là, bah, il a fallu. On a été obligé à plusieurs collectivement de sortir ces sacs de terre, donc en ouvrant les portières du camion, et on a déversé dans une mêlée confuse et festive même, parce que c'était très drôle de danser avec les gendarmes. Et
donc, danse avec les loups.
Ouais, c'est ça. Donc c'était comme un mauvais match de rugby, quoi. Tout le monde, c'était une grosse mêlée, et puis on a quand même sorti les sacs de terre, c'était une première victoire. Et de cela est sorti quand même deux interpellations, dont moi-même et un camarade. Et on a été mis en garde à vue, et pendant 22 heures, on est passé dans les geôles de la République pour la nuit, quoi. Et le 28 avril 2009, on est passé au tribunal de Saint-Nazaire pour être jugé, et on a été jugé pour avoir dégradé un véhicule, volé de la terre, pour s'être rebellé contre les forces de l'ordre et pour avoir refusé de donner nos prélèvements ADN. Donc on a pris 4 mois de sursis en tout, quoi.
Voilà, donc on vient d'écouter un extrait. C'est une émission qui date de septembre 2009, donc réalisée par Radio Zinzine. Donc on vient d'écouter Paul et ainsi que Rodolphe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'idée un peu c'était de voilà, donc il y a Paul qui a recontextualisé un peu ce projet d'aéroport, donc qui a, comme on a dit tout à l'heure, qui a une quarantaine d'années d'existence, et puis qui a expliqué aussi comment le conseil général avait commencé à racheter des terrains, etc. Et puis voilà, Rodolphe qui insiste sur le fait que les gens sont encore motivés sur place, qu'ils voient bien qu'avec tous ces flics, ça commence à peser très lourdement sur l'ambiance quotidienne, au jour le jour. Et bon, l'idée, c'était de dire un peu ce qui s'est passé entre septembre 2009 et aujourd'hui. Donc, au moment où l'émission avait été faite, c'était en septembre 2009, et ça avait suivi... C'était suite à un camp Action Climat qui avait eu lieu en août 2009 à Notre-Dame-des-Landes, qui avait marqué quand même un temps fort à ce moment-là, puisque c'était donc une grosse rencontre avec plein de gens. Et puis ça a été aussi important dans le fait aussi que... c'est pas que ça a créé des décisions, mais quand même concrètement, dans ce camp Action Climat, d'un côté... il y avait un contenu politique qui était essentiellement axé sur l'écologie, avec une forte concentration de partis et d'organisations écologiques bien connues. Hein, voilà.
Respectable
aussi. Donc voilà, il y avait un contenu politique qui était quand même assez limité. Et puis à côté de ça, pendant ce même temps et sur le lieu même... il y avait une partie des gens qui insistaient beaucoup pour ne pas limiter le discours sur simplement l'écologie, et des gens qui disaient que l'aéroport, ça, la question de l'aéroport pouvait se
contextualiser.
Merci.
Et puis ils mettaient ça dans un contexte plus global, dans une...
Aussi, ouais.
Oui, où c'est pas juste, il s'agit pas juste de remettre en cause l'aéroport, mais toute la logique qu'il y a derrière.
Voilà. Et à ce moment-là, il y a eu aussi justement un appel aussi à venir occupait sur place des terrains et des maisons, donc qui avaient été laissés à l'abandon ou achetés par le conseil général, mais pas que d'ailleurs, parce que dans ouais. Et voilà. Et depuis, effectivement, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est du coup maintenant, il y a à peu près une bonne quinzaine de terrains et de maisons qui sont occupés. Et
illégalement.
Voilà, illégalement.
Sans droit ni titre.
Oui. Et apparemment, si j'ai bien compris, cet été, il y aurait eu des lettres de menace de la mairie qui...
Pour terroriser les gens.
Pour intimider et qui menaçait d'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé aussi après, entre 2009 et 2010 ? Il y a eu quand même plusieurs manifestations et tentatives de blocage d'enquête publique, puisque en fait, là où ça en est le projet d'aéroport, c'est qu'il y a eu une première phase dans les années 2000 d'enquête préalable à l'enquête publique. Je ne sais plus le terme exact.
C'est le débat public, voilà, la Commission nationale du débat public.
Voilà, c'est ça. Donc il y a eu une première phase de débat public. Ensuite, en 2007 ou 2008, le projet a été reconnu d'utilité publique. Et logiquement, ce qui suit la reconnaissance d'utilité publique d'un projet, eh bien, c'est l'enquête publique. Et là, c'est des commissaires... experts qui se rendent sur place et qui doivent ouvrir des permanences dans les mairies concernées par le projet et voilà.
Faire des réunions, des grosses réunions, voilà. Donc ça a été déjà considéré comme d'utilité publique avant que le public ne soit d'accord.
Avant que le public n'envoie l'utilité.
Donc voilà ce qui s'est passé depuis un an, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives de blocage de ces enquêtes publiques. Et également, comme le disait Rodolphe à l'instant, c'était aussi des blocages des experts géomètres qui viennent faire des prélèvements de terre pour analyse du sol en prélude de travaux. Et donc voilà où on en est, enfin voilà où les gens sont là-bas sur place. Et donc,
faut rappeler que c'est quotidien, ces trucs-là de blocage. À chaque fois qu'il y a un cravateux qui arrive, il y a tout de suite plein de gens qui se mettent autour, qui empêchent les voitures de passer, qui leur subtilisent ou qui leur volent des trucs. Et enfin, entre autres, et qui empêchent vraiment que le travail se fasse, qui ralentissent et puis qui empêchent vraiment le travail de se faire.
Voilà, et une situation quotidienne extrêmement tendue, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui se déplacent, qui sont liés à ce projet, eh bien, c'est des gendarmes mobiles, c'est l'armée, c'est même des militaires qui sont sur place, des hélicoptères, etc. Des contrôles d'identité au quotidien, enfin, c'est super tendu, quoi, vraiment.
Je crois qu'il y a même la CIA qui...
Bon, il n'y a peut-être pas la CIA, mais au moins le FBI. Mais le... On peut dire que de toute façon, historiquement, dans toutes ces luttes autour des enquêtes publiques, c'est des trucs qui marchent et qui, à chaque fois, agglomèrent les personnes concernées, parce que c'est les retrouver autour de du projet de centrale nucléaire à Plogov dans les années 70, pareil dans les années 80 pour une centrale nucléaire à Chaux, etc. Et à chaque fois, les enquêtes publiques, c'était le point de fixation de la lutte. Ça marche bien.
C'est le sujet du prochain extrait sonore. C'est un petit peu l'implication des... Enfin, ce que ça implique, tout ça, toute cette mobilisation policière et militaire sur les gens qui habitent là-bas. C'est bien ça.
Ouais, en fait, dans cette émission, donc il y avait quelqu'un qui disait que, donc suite à cet appel à venir l'été dernier, suite à cet appel à venir occuper des terrains et des maisons, voilà, la personne un peu se demande quel impact ça a sur les populations qui vivent là-bas depuis super longtemps, parce que c'est vrai que on peut imaginer. C'est pas si facile d'aller là-bas et puis de s'impliquer dans cette lutte. Et voilà. Donc.
Qu'est-ce que on passe On va faire une pause musicale avec un groupe qui s'appelle Drowning Dogs et DJ Malatesta.
Et après, ce sera le petit extrait sonore, extrait de la même émission de Radio Zinzine, enfin de la même émission qui parlait de Notre-Dame-des-Landes et qui revient sur l'implication. Voilà.
Très bien. Alors, c'est parti pour le rap.
Because we really don't have enough time. All government is undesirable and unnecessary. There are no services provided by the state that the community cannot provide for itself. We don't need anyone telling us what to do, trying to run our lives, harassing us with taxes, rules, regulations, and living high on the hog off of our labor.
Freedom, freedom now!
I consider myself an anarchist because I believe in the attainability of a system of society without government.
We're feeling every day like we need some evolution. Feeling like it's the only solution. You see it, you feel it, you taste it, you need it, you want it, you're breathing it. Yours, ours for the taking, the making of a brand new world. The possibilities unfurled as we are hurtling to another day. But we see a different way, yeah. What? Come on, a self-governed society. Cause freedom to me ain't eating cake on my knees. For these top-down democracies, that's it, freedom for all, evolve. A self-governed society. You're looking at me and saying, how can that be? A self-governed world without hierarchy. It's yours, ours for the taking. The making of a brand new world. The possibilities unfurled. True profit sharing for you and me. More bonuses and vacay than you can comprehend. And real healthcare, you look good, my friend. Anarchy, it's not the chaos theory. Don't get bent on what y'all heard. That's just a rich man word, no doubt. Each for themselves, that's barbarism. Straight capitalism, not anarchism. I said like a story, a contradiction. A remix of facts and fiction. Listen to my diction and we all know. Gotta go for show and replaced with workers' collectives. Hurry up, y'all, cause times are hectic.
Okay.
We long it now or we'll forget it. Common people running our lives, sustaining the brain. Read between the lines, see beyond. National divide, one life, one shot. This time, oh God, it's yours. Ours for the taking, the making of a brand new world.
I'm functioning outside the party system.
I said anarchy, it's not the chaos theory. Anarchy, it's not the chaos theory. Anarchy is not the chaos theory.
Anarchy is not the same thing as chaos.
Je crois que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas Plogoff. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas le Larzac. Et c'est pas le Carnet. C'est pas... Ça, pour l'instant, c'est, on n'est pas dans cette... Je crois que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas Plogoff. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas le Larzac. Et c'est pas le Carnet. C'est pas... Ça, pour l'instant, c'est, on n'est pas dans cette vision de la lutte, quoi. Et la population, je veux dire, locale, on lui en a parlé pendant 40 ans de l'aéroport. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans un esprit de dire... Ça va pas se faire parce qu'ils nous ressortent leur dossier assez souvent comme ça. Ils en reparlent et puis après ils en parlent plus. Puis après ils ressortent ça des cartons et ça a duré pendant 40 ans. Et il y a des gens qui sont aussi fatalistes qui se disent bah qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre. Mais je crois que on a plus peut-être pas assez l'habitude de s'organiser quoi. Les gens sont un peu retranchés dans leur isolement, retranchés dans leur vie avec leurs problématiques perso. Mais il y a quand même des choses qui se créent. Il y a quand même des choses qui se font. Et tant qu'il n'y a pas, je crois, parce que là on commence à voir les forces policières qui arrivent. Il y a des gens qui commencent à s'interroger. On en discute quoi avec certaines personnes. Et il y a des gens qui se disent, bah, c'est un truc de fou, c'est un truc de taré quoi, de se faire contrôler alors qu'on est chez nous, qu'on rentre chez nous, tu vois, ou des agriculteurs qui sortent avec leur tracteur, qui se font contrôler. Et ça commence à énerver la population. ça commence, il y a des gens qui commencent à s'énerver par rapport à ce fait-là, quoi. Et quand, si malheureusement les travaux venaient à arriver, les vrais travaux, je pense que là, la population réagirait plus de la même manière, quoi. Elle serait encore plus remontée contre des décisions auxquelles ils n'ont jamais été impliqués, quoi. Et que ils se sont fait avoir par leurs élus, tous ceux qui ont décidé pour eux, quoi. Et peut-être que là, la donne va changer, quoi. Donc c'est, je pense que c'est, ce moment-là est proche, quoi.
En tous les cas, moi, là, ça fait que quelques jours que je suis sur Nantes. Il y a un truc qui m'a marqué quand même. C'est au tout début où je suis arrivé, il y a eu cette action de bloquer la foreuse par des gens de la coordination, donc les gens qui sont traditionnellement plus dans une démarche légaliste et avec des techniques de tube à bras. Donc on s'enchaîne sur un tube à bras et on reste accroché, et que ça c'est quand même je trouve assez particulier d'en venir à ces pratiques là quand on est plus je voudrais dire historiquement plus enclin à faire des pétitions ou des rassemblements citoyens, quoi.
C'est ça, il y a des gens qui s'organisent qui disent que la désobéissance civile c'est aussi l'affaire de chacun, quoi, et que on a les moyens par des actions coordonnées collectivement de pouvoir gêner l'avancée des travaux, quoi, et que s'il y a ce rapport de force qui se crée contre les pouvoirs publics, contre ceux qui décident, s'il y a un vrai un rapport de force qui se crée continuellement, au bout d'un moment ça va lâcher quelque part, quoi. C'est soit en face, ils vont au carton et puis ils amènent l'armée et puis ils font leurs travaux coûte que coûte. Mais en tout cas, vu comment ça se passe, vu comment les gens commencent à s'organiser sur place, dans l'avenir, il y aura encore plus d'actions comme ça où les gens s'enchaîneront, où ils feront autre chose, quoi. Mais il y aura plus d'actions de gens qui vont perturber les travaux, quoi. Ça, c'est clair, ça. Les travaux ne se feront pas, quoi. Parce que déjà, rien qu'avec les forages, à chaque forage, il y a du monde dans les champs, il y a du monde pour s'opposer, il y a toujours une action qui se fait, et tant mieux. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait baissé les bras, qu'on aurait laissé les autres décider pour nous, et là, c'est pas le cas.
Donc voilà, c'était le témoignage d'une personne de Notre-Dame-des-Landes. Donc suite à tout ça, à partir du constat qu'il y a des gens qui s'indignent et il y a des gens qui s'organisent, les gens de la ZAD qui occupent les lieux ont décidé de s'organiser et ont pondu un appel. Donc voici quelques extraits. Donc, depuis l'annonce du projet, des résidents locaux et des fermiers ont organisé leur propre résistance à travers des pétitions, des manifestations, des occupations de tracteurs, des blocages. Suite à des actes de sabotage durant les forages, analyse du sol en vue des travaux, au printemps et automne 2009, la zone était gardée militairement par 150 policiers et militaires qui étaient là pour protéger les machines impliquées dans les travaux. Et en septembre 2009, après le camp Climat Action, sur la ZAD, un appel a été fait pour occuper les maisons abandonnées et les zones menacées de la ZAD, avec le soutien des locaux résistants à l'aéroport. Cet appel a été entendu et il y a maintenant 13 lieux occupés sur la ZAD, incluant des corps de ferme, vides, caravanes, sur des terrains abandonnés, forêts et jardins collectifs. Donc, si vous voulez nous rejoindre ou même venir pour nous rendre visite, nous sommes toujours ouverts. Il y a plein de maisons, de champs, d'arbres, de caravanes qui demandent à être occupées et défendues quand le temps sera venu. Si vous avez votre propre projet pour contribuer, envie de créer un nouvel espace, jardin ou des idées d'action, ou n'importe quelle ressource utile, talent et mieux encore, nous vous encourageons à essayer et venir nous voir. Donc voilà, donc c'est à l'appel du collectif des gens qui habitent, qui occupent les terrains et les lieux sur lesquels il doit y avoir un gros projet d'aéroport et TGV, TGV et autoroute. Et donc dans cette même logique, donc il y a sur ces trucs. Il y a un petit texte qui parle qui revient sur le fait que pourquoi tout ça, pourquoi tous ces projets d'extension des flux, d'extension des voies de communication pour les rendre plus rapides, pour augmenter aussi leur capacité. Pourquoi est-ce que tout le temps on veut toujours aller plus vite? Donc il y a un texte qu'on a retrouvé dans une brochure qui s'appelle
À toute vitesse.
À toute allure. Et qui parle à la base sur le projet du TGV Lyon-Turin. Donc c'est un peu ça nous concerne un peu parce que le Lyon-Turin c'est un peu Rhône-Alpes
et Turin. Et Lyon c'est un peu la banlieue de Saint-Étienne, donc il faut en tenir compte aussi.
Ouais, c'est la cité dortoir de Saint-Étienne, c'est ça. Donc c'est un peu plus à côté de chez nous et que bon bah sur le même modèle d'action de lutte. Donc du côté italien, il y a quand même beaucoup, ça prend vraiment, il y a beaucoup de gens qui s'organisent pour contrer le développement de ce projet-là, du TGV Lyon-Turin. Et donc dans cette brochure, j'ai extrait un petit texte pour qui revient sur le fait de pourquoi vouloir toujours aller plus vite. Alors, vite fait, bien fait, de Turin à Paris et de Paris à Turin. Agrippé à ses 24 heures, chacun trouvera à la gare d'arrivée le même sandwich, le même coca et le même ennui qu'il a laissé à la gare de départ. Avec la grande vitesse, il sera possible de rejoindre le même ennui, le même coca et le même sandwich en 5 heures plutôt qu'en 10. C'est donc ça notre vie? Il semblerait que oui. Paradoxalement, ce n'est pourtant que lorsque chaque instant est devenu égal aux autres, lorsque chaque endroit est devenu identique, que le fait de se déplacer le plus rapidement possible est devenu une conquête. Il y a bien sûr ceux qui se plaignent que la grande vitesse éventrera des vallées, dévastera des jardins, asséchera les géraniums au bord des fenêtres ou tiendra éveillés ceux qui auront la malchance de vivre aux alentours de son passage. C'est vrai, mais il y a plus. Ceux qui administrent tout cela ne sont alors plus bons à rien. Pour continuer à exister, ils doivent ainsi se contenter de réaliser des nocivités, les trains à grande vitesse par exemple. Ceux-là, comme le capital, courent comme des fous sur un quai sans issue. Réussirons-nous à les faire dérailler? Donc voilà, le deal maintenant, c'est de faire dérailler cette machine.
Et tu... Oui. Ouais, tu voulais lire un autre extrait, c'est ça?
Bon, alors vite fait, je reviens juste sur. Alors quand on part sur le site du Transalpin, du Lyon-Turin, donc pour présenter le projet, il y a donc voilà, c'est le site officiel, machin. Donc il y a une photo de Sarkozy à la première page, impressionnant. Et donc pour présenter le truc, alors ils disent bon, la Transalpine, donc le Lyon-Turin. La Transalpine permettra d'acheminer entre Lyon et Turin 40 millions de tonnes de marchandises par an.
Wow.
Et 7 millions de voyageurs. Et ceci dans des conditions optimales de fluidité, de fiabilité et de sécurité. Le monde parfait, quoi. C'est une liaison à haute capacité, frais et voyageurs, qui répond de plus au développement impératif de l'intermodalité. Alors là, l'intermodalité, je pense en France, il doit y avoir 20 personnes qui connaissent ce que ça veut dire, l'intermodalité.
Comment ça, t'es pas intermodal, toi?
Bah voilà, donc pour le futur, dans notre futur, c'est l'intermodalité. Donc faut qu'on soit intermodal dans notre vie. C'est le challenge du...
Bah oui, c'est la Stas, et puis les vélos, et puis après...
Ah, tu sais ce que ça veut dire, toi, l'intermodalité?
Je fais partie des 20 personnes.
En tout cas...
Donc voilà, soyez intermodal pour... Voilà.
En tout cas, c'est ce que tu viens de lire, ça fait beaucoup écho, moi je trouve, aux témoignages qui sont dans la revue Z, une revue itinérante de critique sociale, une belle revue itinérante qui se fait régulièrement. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez savoir comment trouver ce journal, allez sur www.zite.fr, Z-I-T-E. C'est le site de la revue Z. Bref, sur cette revue, c'est une revue, la dernière, là, la numéro 4, elle est justement spécialement orientée sur la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Et il y a beaucoup de témoignages, justement, qui parlent pas que d'un projet d'aéroport qui est chez soi et que éventuellement, c'est pas qu'on est contre les aéroports. Mais on le veut pas chez soi, on le veut ailleurs. Ça va bien au-delà de tout ça. Et justement, ça fait beaucoup écho voilà, au développement, de manière générale.
Impératif de l'intermodalité. Ah, voilà. C'est impératif.
Et puis, juste petite parenthèse aussi, il y a des témoignages qui disent aussi on veut pas non plus de développement durable, parce que les gens qui vendent le projet de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, la caricature, elle est tellement énorme qu'ils vendent un projet à haute qualité environnementale.
Et, HQE.
Ce qui a d'ailleurs été un prétexte pour contourner le Grenelle de l'environnement qui avait eu lieu l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et qui avait justement, c'est un contournement, ils ont dit, ok, on va faire un aéroport, mais à haute qualité environnementale. Ce ne sera pas des avions en toile de canapé.
Non, ce sera des avions bio.
Voilà, non mais voilà. Et du coup, ce message, il ne passe pas du tout, quoi, parce que voilà, il ne faut pas se moquer du monde comme ça aussi facilement.
Ah non.
Et ben, bref, voilà, donc les extraits que tu viens de lire, c'est bien parce que ça fait beaucoup écho à ces témoignages d'habitants sur place qui se laissent pas berner par ce discours-là, en tout cas. Bref, donc voilà, tout ça pour parce qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais on vous invite vivement à venir rencontrer justement des personnes qui vivent à Notre-Dame-des-Landes et qui font partie de cette lutte.
Et qui vont venir nous voir et discuter avec nous, avec vous et nous, le 20 décembre, lundi 20 décembre à 18h à la fac, Tréfilerie, site Jean Monnet, à l'amphi E01.
Voilà.
Viens des nombreuses. Et stay intermodal quand même.
Et là, on... Voilà, on passe.
On écoute René Binamé, c'est ça ?
La vie, c'est cool. Bon,
la vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. De marchands, de policiers, au
chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Le samedi 18 décembre, au musée de la Mine à Saint-Étienne, les collectifs Avataria, Universal, La France Pue et les Créations du Crâne proposent Quartier Libre, une journée de soutien à Radio Dio, au futur centre social autogéré ainsi qu'au collectif Sans Papier.
Refusent le partage omnibulé par leurs sous, ils préfèrent dire non d'entrée de jeu, c'est...
Dès midi et ce jusqu'à tard dans la nuit, il y aura une cantine, des ateliers cirque et radio, une permanence juridique, une émission en direct de radio, une visite du musée et bien entendu des concerts. Voici pour le gros du programme. Quant aux concerts, il y aura René Binamé, Drowning Dog et DJ Malatesta, Red Bong, L Division et enfin Binaire. La journée Quartier Libre, c'est le samedi 18 décembre. C'est au Puy Couriau, au musée de la Mine, ici même à Saint-Étienne. N'hésitez pas à regarder les programmes et surtout, ramenez-vous.
Voilà, et ben vous venez d'entendre une petite annonce pour la journée Quartier Libre du 18 décembre au musée de la Mine. Donc on voulait terminer cette émission en présentant un peu plus ce qu'était cette journée. Donc, voilà. Pour la musique, voilà, on va commencer à l'envers. Le soir, il y aura un concert à 6 euros. On a écouté vers midi 20 un morceau de Drowning Dog qui joueront ce soir-là. On vient d'écouter, il y a une minute, une chanson de René Binamé qui joueront ce soir-là. Et puis, il y aura aussi Red Bong, fameux groupe électro-hip-hop de Saint-Étienne. Et L Division, un groupe de crust basque, et Binaire, qu'on va écouter en fin d'émission. Donc voilà, ça c'est pour la musique, c'est le soir. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette journée, elle a été organisée dans le but de, entre autres, soutenir financièrement trois structures qui ont besoin de sous. Donc, quelles sont-elles? C'est Radio Dio, le projet d'un centre social autogéré à Saint-Étienne et le collectif Sans Papier. Donc, le collectif Sans Papier, qu'est-ce que c'est?
Le collectif Sans Papier, c'est un ensemble de personnes avec ou sans papier qui ont décidé de se regrouper, de s'organiser pour lutter contre la xénophobie d'État et notamment ses atteintes à la liberté d'expression et au droit de vivre comme on veut, où on veut, quand on veut. Voilà, en gros, ils sont déjà venus plusieurs fois à l'antenne de Radio Duo pour parler de leurs activités, notamment dans l'émission du numéro 0. Juste, on va rappeler que sans papier, ça s'écrit sans, comme le chiffre, papier au pluriel, qu'ils font des permanences téléphoniques et de l'accueil aussi physique une fois par semaine, c'est tous les lundis de 18h30 à 20h dans le local de la dérive, à l'adresse 31 rue Basse-Dérive, à Saint-Étienne, juste à côté de la fac et de Centre 2. Voilà. Si vous voulez y accéder, c'est avec le tram Tréfilerie. Et voilà. Donc, il y a aussi pour la permanence téléphonique, le numéro de téléphone, c'est le 04 27 64 90 65. 04 27 64 90 65. Il y a aussi un numéro d'urgence. Si vous avez, vous êtes témoin d'arrestation, de rafle ou de choses comme ça, c'est un portable. 06 47 58 24 74. 06 47 58 24 74. Voilà. Si vous voulez les contacter par mail, C'est collectif sans papier, col sans papier, CO2L sans, comme le chiffre, PAP, at riseup.net. Voilà. Ça, c'est pour le collectif sans papier, mais on peut parler aussi, du coup, de futur local.
Alors, on va en venir. Il y a un projet qui est en cours d'élaboration, je tiens à le dire, c'est pas fait encore. C'est un projet de créer un lieu autogéré, à Saint-Étienne et qui rassemblerait un certain nombre d'activités, entre autres la permanence aussi de sans-papiers, puisque en fait en gros cette ouverture est liée aussi à la future prochaine éventuelle fermeture justement du local de la dérive. Donc voilà un certain nombre d'activités dedans qui sont prévues. Il y aurait aussi un bar associatif. Et puis ce sera aussi un lieu où on pourra continuer à organiser des soirées de rencontres, des projections de films, etc. Un lieu de complotage aussi, hein, bien entendu. Et financièrement, effectivement, ça a besoin de thunes parce que le projet est parti sur une location d'un endroit. Donc voilà, ça nécessitera un peu de sous. Et surtout pour le début. Après, normalement, ça fonctionnera en autogestion financière aussi. Donc sans subvention, etc. Donc voilà. Donc voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler le jour même, le 18 décembre, à la mine.
Voilà, idem pour Radio Dio. Donc cette journée Quartier Libre, elle sera aussi en soutien à Radio Dio, la radio que vous êtes en train d'écouter, logiquement. Faire tourner une radio associative. Ça coûte des sous, notamment parce que cette radio a toujours refusé d'être financée par la publicité. Par contre, contrairement au projet de centre social autogéré, elle est beaucoup financée par les collectivités publiques. Mais il y a aussi une volonté de trouver des sous ailleurs. Et notamment, c'est une initiative complètement autogérée. Et le but, c'est que des passionnés, et des amateurs et des amis de Radio Dio organisent un événement sympathique dont un des objectifs, c'est d'offrir un peu de sous à la radio.
Et c'est important de soutenir Radio Dio, qui est, comme tu l'as dit, une radio qui fonctionne sans pub et qui est une radio associative aussi.
Ouais, oui, il se passe quand même pas mal de trucs intéressants à l'antenne. Voilà, donc je vais aller beaucoup plus vite que prévu pour le contenu de cette journée. Donc je vous rappelle, c'est le 18 décembre sur le site du Musée de la Mine à Saint-Étienne. Ça commence à midi. Avec une cantine collective végétalienne. Donc le repas vous est proposé à prix libre. Ensuite, dans l'après-midi, il y aura de 13h à 15h un atelier jonglage et expression corporelle clown. Donc vous pouvez vous inscrire à partir de 7 ans. Vous pouvez venir à midi et vous inscrire, par exemple. Il y aura aussi un atelier radio. Donc c'est à un moment, quelques heures, où on découvre un peu comment on peut faire de la radio. Avec un studio mobile et tout. Il y aura de 15h à 17h un atelier média libre. Donc là, c'est pour apprendre à publier soi-même son article sur le site du numéro zéro. Donc on vous incite souvent à publier vos articles vous-même. Et vous pouvez venir pour apprendre à le faire. Et il y aura aussi, ça va être une journée très chargée, de 15h30 à 18h, ce sera une émission retransmise en direct du Musée de la Mine sur Radio Dio. Donc, vous pourrez écouter tout l'après-midi, donc de 15h30 à 18h sur Radio Dio, des choses qui se passent au Musée de la Mine dans le cadre de cette journée Quartier Libre, notamment une présentation plus détaillée des collectifs, des gens qui organisent, des gens à qui cette journée est en soutien, des groupes, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et à 19h, il sera possible de visiter gratuitement le musée de la mine. Et après, il sera possible encore de manger un succulent repas à prix libre ou un succulent casse-croûte. Et ensuite, les concerts commencent vers 19h, 19h30, je pense, et presque jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà. Et pour vous dire, si vous voulez découvrir plus en détail, notamment les groupes et le contenu de cette journée, mais surtout les groupes qui joueront ce soir-là, il y aura une petite émission Ruckus spéciale à ce sujet. Ce sera ce lundi de 19h à 20h, donc lundi le combien ? 9, 10, 11, 12, 13 par là, lundi 13, sur Radio Dio. Donc voilà.
Et on vous le redit, donc le 20 décembre, lundi 20 décembre, les gens qui luttent à Notre-Dame-des-Landes seront à la faculté Tréfilerie à l'amphi E01 dès 18h. Voilà, venez, venez nombreux aussi et nombreuses à leur rencontre. Ça leur fera du bien, je pense, une présence aussi. Parce que
et si vous ne pouvez pas venir à 18h, vous pouvez venir quand même à 20h, à partir de 20h30 à la dérive. Pour une auberge espagnole.
Alors, amenez de quoi bouffer, de préférence, sans viande, s'il vous plaît, animal, etc.
Et voilà, donc on va, c'est l'émission numéro 0 qui touche à sa fin. Et pour se quitter, on va écouter un morceau de Binaire qui joueront donc le 18 décembre, le soir, dans le cadre de la journée Quartier Libre au Musée de la Mine.
À dans 15 jours, salut.
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 Un morceau de Binaire qui s'appelle Dick Return.